Jeanne d'Arc a été brûlée en 1431, mais son histoire commence au moment de sa mort, en réalité, parce que 25 ans après, l'Église a réhabilité Jeanne d'Arc. On l'avait brûlée comme sorcière et hérétique. Alors, le roi Charles VII tenait à laver son passé et son sacre avec ça. Alors, donc, on a réhabilité Jeanne d'Arc. Après les siècles suivants, elle est tombée beaucoup dans l'oubli. Pourquoi? Parce que la monarchie française était devenue aristocratique et puis rappeler au roi que son ancêtre devait son trône, sa couronne à une paysanne, ça passait pas bien la rampe. Alors, on l'a presque oublié, on l'a même déclassé au 18e siècle. Vous comprenez qu'une une personne qui se disait inspirée de Dieu, là, avec les rationalistes du 18e siècle, ça passait pas du tout la rampe. Alors, on l'a vraiment dit, c'était une idiote, et puis elle a été utilisée par les services secrets. Ça s'arrêtait à peu près à ça. Mais au 19e siècle, elle va reprendre du galon. Elle va reprendre du galon parce que l'Église va s'en emparer. On s'est dit, bon, d'accord, c'est une héroïne, mais c'était peut-être aussi une fille envoyée par Dieu. Surtout qu'à l'époque, elle avait été récupérée par les socialistes et les républicains au 19e siècle. Alors, l'Église se disait, si les impies veulent se servir de Jeanne d'Arc, ben nous, on va leur retirer le tapis du pied puis on va en faire une sainte. Alors là, il y a un long épisode non seulement de réhabilitation, mais de vénérabilisation et de béatification de Jeanne d'Arc. Ça va aller jusqu'au 20e siècle, mais ce retour, je dirais, de l'histoire par rapport à l'Église qui l'avait condamnée au départ, de revenir en surface et de la canoniser, c'était vraiment là une révolution, on peut dire, en soi. Mais ça a permis aussi au mythe de Jeanne d'Arc de se former, d'entrer profondément, elle l'avait toujours été, mais d'entrer encore plus profondément dans la mentalité populaire et dans la culture générale. Alors, Jeanne d'Arc est aussi inconnue en Amérique. On va la redécouvrir comme les Européens l'avaient redécouverte. On la redécouvre au 19e siècle. D'abord par des brochures, des articles dans les journaux. On parle d'elle de façon assez glorieuse dans la revue canadienne, dans certains journaux ou des revues d'époque. Ce qui va lui ouvrir la voie royale, en fait, c'est la canonisation. C'est encore là, lorsque l'Église la prend en charge, ben en fait, elle va retrouver encore là un statut extraordinaire. C'est la voie royale, au fond, qui va faire que Jeanne d'Arc, on va la découvrir, mais à la fin du 19e siècle seulement au Québec. Alors, le grand épisode, je dirais, l'épiphanie joannique au Québec, c'est le congrès eucharistique de Montréal en 1910. Parce que l'archevêque d'Orléans y était invité, Mgr Touchet, qui a fait un grand panégyrique sur Jeanne d'Arc, associant même le destin de Jeanne d'Arc au destin du Canada français, cette espèce de rameau de la francophonie qui vivait ici, avait pris au fond racine grâce à cette Jeanne d'Arc qui avait lutté contre les Anglais en son temps et qui avait réussi à bouter les Anglais hors de France, qui avait permis, quelques siècles après, évidemment on fait de la téléologie là, mais avait permis la naissance de cette nouvelle France catholique et tout. Bon, alors ça a été déjà le début, c'est quelques jours avant le fameux discours d'Henri Bourassa sur la langue française, au même congrès eucharistique de Montréal. Donc, quelques années après, non seulement on a découvert un peu grâce encore là à ce grand congrès eucharistique la figure de Jeanne d'Arc, mais l'Église procède à la canonisation en 1920. Et là, déjà, il y a déjà toute une préparation, l'Église a ouvert le chemin, et là, il y a vraiment, on peut dire, une sorte d'apothéose. Tout le monde, il y a 10 000 personnes qui se réunissent à Sillery pour célébrer Jeanne d'Arc. Il y a vraiment, je dirais, une fusion. Le mythe de Jeanne d'Arc est entré dans un terreau fertile au Québec, et tout le monde se réclame de Jeanne d'Arc vers 1910-1920. Donc, la popularité de Jeanne d'Arc se traduit à travers des congrégations religieuses, deux notamment, une à Québec, alors les Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc à Québec, mais qui ont été fondées aux États-Unis dans un milieu franco-américain, avec le père Staub, qui est un père assomptionniste d'origine alsacienne, qui va fonder avec des religieuses canadiennes aux États-Unis. Comme elles n'avaient pas droit de cité là-bas, elles ont décidé de venir s'installer à Québec, à Sillery, dès 1917, on est dans les années 1910. Donc, voilà déjà une congrégation au service des séminaires. séminaire, des prêtres, etc., qui va s'installer à Québec. Un autre institut religieux, c'est celui de l'Institut de Jeanne d'Arc à Ottawa, qui s'occupait de recevoir des jeunes filles qui arrivaient en ville et qui cherchaient à compléter leurs études, à trouver du travail, etc. Donc, on va les soutenir et une congrégation qui va se former à Ottawa de ce côté-là. Et on va voir aussi Jeanne d'Arc au soutien des femmes alcooliques. On a créé, également aux États-Unis, ça s'est essaimé du côté canadien, pour soutenir, alors on avait les cercles Lacordaire pour les hommes et les cercles Jeanne d'Arc pour les femmes. On va voir aussi Jeanne d'Arc avec les scouts, les guides et les scouts. Il y avait des jeunes filles qu'on appelait les Jeannettes, en souvenir de Jeanne d'Arc. Alors c'était l'équivalent des louveteaux des jeunes scouts féminins. Alors on la voit comme ça pénétrer un petit peu partout et on rappelle toujours le mythe de Jeanne d'Arc à travers ces instituts. Alors, l'Église canonise Jeanne d'Arc, en fait un modèle, mais en 1920, c'est une époque florissante pour le féminisme. C'est l'époque des suffragettes, les femmes réclament les droits de vote. Ensuite, les modes ont changé grâce à la guerre. Alors, les modes féminines sont beaucoup plus simples, les jupes plus courtes, les cheveux courts, etc. Alors, l'Église qui a créé finalement cette Jeanne d'Arc, offert un modèle, inspire aussi les jeunes femmes. On le voit parfois, je l'ai vu à Limoilou par exemple, à l'église Saint-Charles de Limoilou, un vitrail dédié à Jeanne d'Arc a été offert par les jeunes filles ouvrières de Limoilou. Alors on voit que les jeunes filles s'inspiraient du modèle de Jeanne d'Arc, mais l'église rapidement est en porte-à-faux parce que on présente une femme émancipée comme Jeanne d'Arc, qui a fait la guerre, qui s'habillait en garçon, etc. Or, c'est ce que l'Église condamne d'une certaine façon. On veut que les femmes reviennent au foyer, restent tranquilles, gardent les cheveux longs parce que c'est plus féminin, les cheveux courts, c'est la garçonne, on n'aime pas ça. Alors, l'Église est en porte-à-faux. On dit, Jeanne d'Arc est admirable, mais elle n'est surtout pas imitable. N'allez pas faire la guerre, n'allez pas faire ceci ou faire cela. Alors, on voit à quel point l'Église est obligée de composer avec le modèle qu'elle a offert à tout le monde, à tous les chrétiens, et en même temps, elle doit vivre avec ce féminisme qui l'agace, qui la dérange et qu'elle condamne d'une certaine façon à l'époque. Alors, Jeanne d'Arc devient rapidement un symbole patriotique. Comme elle l'est en France, elle l'est ici dans le contexte du Canada français de l'époque. Et on voit à quel point elle est populaire parce que les paroisses dédiées à Jeanne d'Arc se multiplient dans chaque diocèse. Les rues dédiées à Jeanne d'Arc dans à peu près chaque ville du Québec, on a une rue Jeanne d'Arc ou Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, il y a vraiment une popularité. Et surtout que à l'époque, dans les années 10, 20, 30, le Canada français se bat aussi pour la défense de la langue française. Et Jeanne d'Arc, qui s'est battue contre les Anglais autrefois, devient aussi une référence, un symbole aussi qui permet justement de soutenir particulièrement du côté de l'Ontario français où, à ce moment-là, on vivait sous le fameux règlement 17 qui limitait l'enseignement du français dans les écoles. Alors, on écrit des hymnes à Jeanne d'Arc, on chante des chorales à des chants dédiés à Jeanne d'Arc. Alors, il y a vraiment une espèce d'enthousiasme qui permet, je dirais, une forme de résistance du Canada français face à l'envahissement de l'anglais. Alors, Jeanne d'Arc est également populaire du côté des Français vivant ici. Et à Montréal, il y a une association des Français vivant au Canada qui s'appelle l'Union française, qui existe depuis 1886, si je me souviens bien, et qui était très, très dynamique au début du 20e siècle. Alors, évidemment, Jeanne d'Arc, là aussi, tombe dans un terreau extrêmement réceptif. On fait de grandes cérémonies au moment des fêtes de Jeanne d'Arc en mai. On fait des grandes messes, on fait des grands rassemblements populaires. À certains moments, des fois, il faut fermer des rues dans Montréal, à quel point la foule est nombreuse pour accompagner ces cérémonies de Jeanne d'Arc. Et comme Jeanne d'Arc est aussi divise beaucoup les Français entre la droite et la gauche en France, on voit par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où Jeanne d'Arc avec la Croix de Lorraine inspire tant les gaullistes, la France libre, que Vichy et Pétain qui se réclament également de Jeanne d'Arc, tout le monde se réclame de Jeanne d'Arc, mais la pauvre Union française de Montréal est séparée, divisée justement dans les années 42-43 parce qu'il y avait un groupe qui souhaitait évidemment faire de Jeanne d'Arc un symbole de la résistance et un autre qui disait non, faut rester un peu plus respectueux du maréchal, etc. Donc on voit vraiment même la communauté française de Montréal se divise en 43. Il y a deux fêtes de Jeanne d'Arc, une pour les gaullistes et une pour les maréchalistes. Alors, on voit à quel point même les divisions que Jeanne d'Arc générait en France ont eu leur répercussion également au Québec. La popularité de Jeanne d'Arc s'étend en fait jusqu'aux années 50-60. Par exemple, en 1948, les Américains font un très grand film, c'est Fleming, Victor Fleming, qui fait un très grand film avec Ingrid Bergman, peut-être que certains se souviendront de ça. Ben, ce film-là, lorsqu'il est présenté au Québec, connaît un immense succès. Les foules, ça, pendant des semaines et des semaines, on se précipite dans les cinémas pour voir ce film. Alors, on comprend à quel point le mythe est encore vivant, enfin, le souvenir joannique est encore très vivant dans ces années-là. Mais il y a eu aussi, je pense, dans la symbolique profonde de cet attachement-là à l'image de Jeanne d'Arc, le fait que le Canada français se reconnaissait dans cette figure de Jeanne d'Arc, quelqu'un d'énergique, de dynamique, qui avait été écrasé finalement par le destin qui l'avait finalement rendu victime. André Malraux avait une très belle image, il disait que Jeanne d'Arc inspirait les peuples opprimés parce qu'elle était à la fois une figure de victoire et une figure de pitié. Ben, je pense qu'il y avait quelque part là-dedans quelque chose qui rejoignait la mentalité du Canada français à l'époque, et ça explique un peu pourquoi elle a été si longtemps, jusqu'aux années 60, une figure inspirante. Par la suite, c'est tombé un peu dans le folklore, on s'inspirait, on se moquait de quelqu'un qui disait entendre des voix, on disait « Ah ben oui, c'est comme Jeanne d'Arc, t'entends des voix, t'as des inspirations, etc. » Alors c'était plus pour se moquer, mais il y avait quelque part aussi, si pendant tant d'années, le mythe de Jeanne d'Arc a été si puissant, je pense que c'est dû à ce lien qu'il pouvait y avoir dans la personnalité de la personne historique avec la mentalité du Canada français. On voit aussi la popularité de Jeanne d'Arc avec l'apparition du prénom Jeanne d'Arc. En France, le prénom Jeanne d'Arc, c'est un peu étrange, là. Il y a personne qui utilise le prénom Jeanne, bien sûr, mais le prénom Jeanne d'Arc, c'est comme s'appelait Napoléon Bonaparte comme un prénom. Alors, on fait pas suivre le d'Arc avec le Jeanne. Alors qu'ici, ça a été, dans les années 20 et 30, ça a été le deuxième prénom le plus populaire pendant un temps, prénom féminin. Alors, c'est quand même étonnant. Je pense que dans plusieurs familles québécoises encore, il y en a une tante, une grand-mère qui s'appelait Jeanne d'Arc. On a quelqu'un dans notre famille qui s'appelait Jeanne d'Arc. Alors, ça occupe une période de 10 ou 15 ans ou 20 ans où vraiment ce prénom-là est extrêmement populaire. Bien, à partir des années 60, à partir justement de la baisse de la pratique religieuse, de la Révolution tranquille, bien, l'histoire de Jeanne d'Arc s'est comme un petit peu effilochée dans le temps. C'est devenu plus folklorique. On s'amusait, par exemple, à l'Assemblée nationale, lorsqu'on voulait attaquer un adversaire, on disait « Ah, le ministre est inspiré, il entend des voix, il est comme Jeanne d'Arc ». Alors, c'était devenu plus anecdotique ou plus humoristique. Et on voit aussi perdurer l'image de Jeanne d'Arc à travers la caricature. Par exemple, souvent, les femmes politiques qui se battent pour des idées ou des principes, on va les représenter comme ça, immolées sur l'autel ou le bûcher de leurs idéaux. Alors, on va les représenter. Ça a été le cas de Lise Payette, ça a été le cas de Mme Ouellette, Martine Ouellette, récemment. Alors, on va souvent chercher comme ça des femmes politiques qui se sont battues de façon très énergique pour leurs idées, et on les caricature sous une forme de Jeanne d'Arc.